radio. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Jeudredi, votre rendez-vous hebdomadaire sur Agone Radio. Au sommaire de ce 14 décembre 2023, des belles choses, le triage forestier de la Cime de l'Est pour commencer, qui se chargera de la vente des sapins de Noël de la bourgeoisie. C'est demain, vendredi 15 décembre, sur la place Val-de-Marne. Pour en parler, nous recevons Florence Rapa-Beauvais, conseillère bourgeoisiale, et Julien Crozet, monsieur le garde forestier. On parlera également des colis du cœur de Saint-Maurice. Ils seront présents mercredi 20, jeudi 21 décembre au Noël Ensemble de la Société de Développement. Maurice Sessou viendra nous parler des actions de cette association et nous dira comment la soutenir. C'est important. Et puis enfin, Miroir de page, la rubrique littéraire de Yasmina Cordonnier qui nous présentera de nouveaux ouvrages disponibles à la librairie Saint-Augustin. Nous sommes le jeudi 14 décembre 2023. Comme chaque semaine, nous sommes ensemble pour une heure sur Agone Radio.
Salut Florian. Salut Florence. J'étais Florian. Voilà, ça commence bien.
Qui est Florian? Il n'est pas venu.
Salut Julien.
Salut Victor.
Salut Victor.
Première question pour la conseillère bourgeoisiale. Quel est ton rôle au triage forestier?
Alors, au triage forestier, je suis la présidente du triage forestier. Et il y a une commission interbourgeoisiale qui est formée de 5 bourgeoisies et 2 membres de chaque bourgeoisie font partie de cette commission. Et on se réunit régulièrement pour gérer la partie, on dirait un peu, ça fonctionne un petit peu comme un conseil d'administration. On prend certaines décisions. Par contre, toute la partie gestion du triage au niveau forestier, c'est le garde forestier Julien Crozet qui gère les forêts.
Donc la vente des sapins, c'est toi Julien?
Exactement, ouais.
Donc la bourgeoisie mandate le triage pour la vente des sapins et puis tout le conseil fait partie de cette vente.
Comment ça se passe cette vente des sapins demain?
Ça se passe bien.
Bah heureusement.
L'organisation c'est prêt.
Bon, vous êtes rodé. L'organisation
est prêt. Ça fait déjà plusieurs années qu'on met ça en place, donc c'est un système qui est assez facile à mettre en place. Donc c'est dès demain 16h qu'on est prêt à vous accueillir, mais pas avant, parce qu'on a quand même souvent des gens qui veulent prendre des sapins avant, mais souvent.
Ils veulent réserver.
Ils veulent réserver et ça on fait pas. Donc, ceux qui arrivent vraiment à 16h, ils n'en ont plus. Donc, vraiment, on vend que dès 16h.
Bon, il y a déjà eu un entraînement la semaine passée déjà. Hein, mais là, c'était.
Exactement, au centre forestier, ouais.
Qu'est-ce qu'il y a comme style de sapin?
Alors, on a des épicéas qui sont élevés ici.
Donc,
à
des sapins.
Donc, c'est des épicéas, mais c'est des sapins de Noël, quoi. C'est
juste sapins du coin.
C'est des sapins du coin, voilà. C'est une espèce un peu.
Voilà, culture. Tu pourras briller en famille, Victor. Le saviez-vous, les sapins sont des épicéas?
Enfin, c'est que des épicéas.
Ouais, alors exactement. On les vend comme sapins, mais c'est des épicéas. C'est l'essence qui s'appelle comme ça. Mais ça reste
des sapins.
Des arbres à aiguilles, disons. Donc, on a des épicéas qui sont élevés à la pépinière à Saint-Maurice. Et si on prend quand même des Nordman qu'on commande du plateau suisse.
Donc, Nordman, c'est une marque.
C'est une marque, c'est
un sapin normal.
Exactement, c'est un sapin différent. Ouais.
Donc vous n'avez pas suffisamment d'arbres du coin, de nos forêts, il faut compléter.
Alors il faut compléter parce qu'on n'arrive pas à en produire assez. Et aussi parce que le Nordman, c'est un style de sapin qui est très recherché par les ménages. Parce qu'on dit qu'il perd un peu moins les aiguilles, qu'il est un peu plus esthétique.
C'est celui qui fait très mal quand on le touche, c'est ça?
Il fait peut-être un petit peu plus mal, mais moins que le sapin bleu par exemple.
Le sapin bleu, c'est vraiment celui qui pique le plus, mais qui le tient encore mieux qu'un Nordman.
Oui, mais celui-là, on ne le vend plus parce qu'il piquait trop.
Combien de sapins demain dans la vente? Enfin, en général.
En tout, on va prévoir environ une centaine de sapins. Par année, on vend un peu plus de 200 sapins ces dernières années. Donc, c'est pas.
De taille, des grands
de
des petits,
de toute taille. Il y a des plus petits de 1 mètre jusqu'à des grands de 3, 4, 5 mètres, voire même des tout grands vraiment pour les communes ou les villes qui veulent en mettre sur certaines places.
Alors comment ça se passe? Alors je vois, c'est local et durable.
Oui, alors ça veut dire que là, c'est une pépinière qui est entretenue par le triage forestier sur mandat de la bourgeoisie. Donc ça veut dire que c'est nous qui les plantons, qui allons les faucher l'herbe pour éviter qu'ils soient pris dans l'herbe. On les récolte juste avant les ventes, donc c'est vraiment une production locale.
C'est quoi la vie d'un sapin? Donc, comment on le plante? On le plante tout petit, on fait un planton, ça se
passe? Alors, c'est vraiment des petits plants qui font même pas 30 cm de haut.
Achetés ou?
Non, ça, on les achète. On ne fait pas, nous, la germination des graines. Donc, on achète les plants de déjà 30 cm. Ensuite, c'est un trou qu'on fait à la pioche, qu'on met à la main dedans, le petit plant, avec un petit bâton pour.
Un tuteur.
Un petit tuteur. C'est même pas un tuteur pour le plant, c'est plus pour le reconnaître et puis le retrouver dans l'herbe. Parce que forcément, quand on passe au mois de mai, et que l'herbe a déjà poussé...
Tondeuse à gazon pour le...
Non, on fait ça avec des débroussailleuses, mais ça arrive quand même qu'il y ait un taux de mortalité lié
à... Des victimes.
Des victimes, exactement, des bûcherons.
D'ailleurs, ils en plantent 300 chaque année.
Et puis à la fin, ça donne une centaine.
On dirait entre 100 et 200, ouais, qu'on arrive à produire.
Ils sont mangés par...
Alors, il y a les bûcherons, que ça arrive forcément hein, avec des débroussailleuses, mais il y a beaucoup aussi au niveau de la sécheresse et puis du gibier. On a pas mal de cerfs qui aiment bien dormir dans cette plantation. Et forcément, ça augmente un peu le taux de mortalité. Ouais.
Combien de temps ça prend pour avoir un sapin qu'on peut vendre demain?
Alors, il faut compter en tout cas 7 à 8 ans de cycle de vie pour pouvoir le vendre à 1m20, 1m50.
Ouais. Donc, c'est une grande parcelle?
C'est une assez grande parcelle, ouais. J'ai pas la surface exacte, disons, mais bien un demi-hectare, ouais.
Question piège, comment on fait pour... Enfin, les graines des sapins, ça se fait comment? Comment on fait ce planton?
Comment on fait les...
Est-ce qu'on peut le faire à la maison?
Alors oui, on peut essayer de faire germer des graines à la maison, oui. Oui, à même titre que... je pense que vous aurez déjà tous essayé à la maison une courge, un avocat. C'est le même principe de germination que toute plante
qui crée des fruits.
Exactement, la graine des sapins, des épicéas se trouve dans les pives, ouais.
Donc demain, 16h-18h, ça coûte combien?
Alors, ça va de 20 francs pour les plus petits et puis les locaux à une quarantaine de francs pour les Nordman.
Ok, animation à côté, Père Noël vient.
Le Père Noël, exactement. Ce sera un vrai Père Noël. Enfin, c'est le vrai Père Noël.
Bien sûr, qui vient. C'est évident.
Il fait le déplacement spécialement pour la vente demain.
Ok, du vin chaud, c'est aussi le Père Noël qui l'amène.
Alors, le vin chaud, c'est Optiagone qui participe à la vente depuis bien quelques années maintenant et qui propose à toute sa clientèle... Et à toute la population, le vin chaud avec quelques petits gâteaux. Et puis, d'un autre côté, en parallèle, il y a le triage, donc les bûcherons qui préparent un thé. Et puis, vous pourrez l'agrémenter avec différents arômes selon le goût de chacun.
Il paraît qu'il est trop chaud, c'est pour ça.
Exactement, soit voilà. Il est trop chaud, il faut le refroidir. Ouais.
Donc, Optiagone, du vin chaud pour mieux voir. Ou pour mieux boire. C'est selon.
Oui, ça aide à se réchauffer, hein, tout simplement. Florence, une longue histoire avec ces ventes de sapins, ça fait quand même quelques années que ça existe.
Oui, en fait, ça fait plus de 40 ans, c'est dans les années 60 que les ventes de sapins, elles ont commencé. Justement, du côté des crêtes, donc pied du mont, dans le secteur de Vérolier, que tout le monde connaît, qui est très célèbre avec son stand de tir, n'est-ce pas? Donc, dans cette région, il y a 90 plants qui ont été, d'épicéas qui ont été plantés. Et puis, à partir de ce moment-là, il a fallu commencer à faire des éclaircies. Donc, ils allaient couper certains sapins pour pouvoir les proposer aux gens à un tarif vraiment très bas. Ces sapins, ils étaient chargés dans des chars. Et puis, ils les amenaient du côté de la place du Parvis. Et puis là, la population et beaucoup de bourgeois attendaient avec beaucoup d'impatience la venue de ces sapins. Et j'ai entendu dire que même les gens se bagarraient à peine le char arrivait sur place pour s'emparer du plus beau sapin. Et puis ça, en fait, ça a été possible bien quelques années. Après, les sapins sont devenus beaucoup trop grands. Et puis, il n'y avait plus de raison forcément de faire des éclaircies à ces moments de fin d'année qui correspondaient à la période de Noël. Donc, ils ont commencé à faire la bourgeoisie a décidé de faire des sapinières, donc de planter ces plants chaque année pour répondre à la demande. Donc, il a quand même fallu attendre quelques années, donc comme l'a dit Julien, entre 6 et 8-10 ans, ça dépend de la grandeur du sapin souhaité pour pouvoir les vendre. Et puis du coup, cette tradition, elle a commencé et puis elle se perpétue jusqu'à aujourd'hui. On s'est posé la question dernièrement si on allait encore continuer à le faire, parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout une activité, on dirait, lucrative. On le fait vraiment pour que les gens évitent d'aller en forêt, couper des sapins vraiment n'importe comment et puis de faire des coupes sauvages. Et puis, on a décidé de continuer de proposer justement des sapins locaux et durables. Une autre raison pour laquelle ils sont durables, c'est qu'on les ramasse à la fin des fêtes. Et puis, on en fait des copeaux pour alimenter une chaudière de calor à bois.
D'ailleurs, on le disait, on discutait avec Julien tout à l'heure. C'est interdit d'aller en forêt couper des sapins. Il faut le savoir. Hein.
Oui.
Oui, exactement. C'est une pratique qui est interdite. Et c'est même pour ça qu'en fait... À l'époque, la bourgeoisie avait proposé des sapins à prix dérisoire à la population pour éviter justement cette coupe sauvage, quoi.
Par contre, alors, autre chose, moi, je le disais tout à l'heure, quand j'étais petit, à l'école. On allait planter un sapin, voilà, et puis ça allait grandir. Hein, ça rappelle une histoire de Kandersteg et d'espoir de planter un sapin devant un tunnel. Ça se fait plus, ça, hein, les écoles qui viennent planter un sapin.
En fait, les écoles venaient planter ces sapins parce qu'il y avait vraiment un besoin. Il y avait une décision qui a été prise de planter des sapins dans les pâturages. Parce qu'à une époque, on s'est dit que le bois ramenait de l'argent. Et c'était l'occasion pour les élèves d'aller vivre cette expérience, de planter quelques sapins. Alors, il y en a une bonne partie qui sont encore sur pied maintenant, mais il y a deux pâturages qui ont été réhabilités, donc à la Lardère et puis aux Crêtes, où là, ben, nous avons coupé du bois, alors que ce n'était pas forcément le bon moment, hein, pour faire la récolte. Et puis, ce qui se passe maintenant, la bourgeoisie propose chaque année aux classes de 6H de vivre une expérience dans le bois noir pour connaître un petit peu la région. Et entre autres, à ce moment-là, ils ont l'opportunité de planter des noyers, par contre. Justement, près des sapinières, en lisière de forêt. Donc, ils plantent plus de sapins, mais des noyers.
Dernière question sur les sapins. Donc, on le décore, et puis après, qu'est-ce qu'on fait avec ? Après, donc, on le recycle. Vous venez le chercher ?
Non, alors de base, pour tout ce qui est vraiment...
La commune fait pas, il me semble, font du ramassage.
Alors la commune Saint-Maurice fait un ramassage des sapins de Noël, il me semble. Vu que je n'habite pas sur la commune, je ne suis pas sûr à 100%. Si en général, les communes récupèrent les sapins, ça passe en déchetterie, dans les déchets verts. Et puis nous, après même au triage, on récupère, et puis après on les déchique pour en faire du copeau.
Ouais. Donc on peut vous le ramener à la fin pour faire des copeaux.
Pas sûr.
Mais sans les décorations.
Petite pause musicale et on revient plus tard pour la description du triage.
Jeudredi, Fabien Lafarge, Victor Glacet, 17h30, 18h30, en direct sur Agone Radio.
Et on est de retour sur Agone Radio, on parle toujours de sapin et Victor, maintenant, on va un petit peu braquer le focus sur le triage forestier, une institution.
Et je me concentre pour Florence. Pour dire juste le prénom, l'historique date de 1982, ce triage. Pourquoi à l'époque, comment c'était avant, pourquoi vous avez fait ce triage en 82?
Alors en 1982, il y a cinq bourgeoisies, donc celles d'Evionnat, de Mai, de Saint-Maurice, de Massonge et de Vérossa, qui sont réunies pour être efficaces au niveau de la gestion de leurs forêts et principalement aussi des forêts de protection. Pour pouvoir engager du personnel en commun qui puisse en fait gérer ces forêts de façon professionnelle. Et puis en 2019, cette convention elle a été changée. Il y a le nom Triage forestier de la Cime de l'Est qui a été choisi. Et puis depuis 2012, il y a le nouveau centre qui est en face de l'ancien hôtel Interalpes et Bouchkiri à la route cantonale 2 qui est fonctionnel. Ce sont des beaux locaux qui permettent d'accueillir une équipe qui est bien équipée maintenant avec du bon matériel et qui s'occupe de plus de 2000 hectares de forêt de protection.
Ça se passait comment avant 82?
Alors, avant 82, je ne sais pas.
Ça ne se passait pas.
Déjà, ah oui, alors avant 82, non, on m'a raconté. Parce que depuis 1982, c'est Jean-Michel Richard qui était garde forestier au triage de la Cime de l'Est. Et avant lui, c'était un monsieur Couta. Et là, en fait, il n'avait pas de véhicule. Donc, le conseiller en charge des forêts et des montagnes m'a dit qu'il devait régulièrement amener le garde forestier sur le terrain, en forêt, parce qu'il n'avait pas de véhicule. Et puis, il partait avec ses outils. Et puis, à l'époque, ils utilisaient encore les scies où on se met un de chaque côté. Hein,
pour les deux, pour donc il devait l'amener plus les derniers.
Bon, non, là, je pense qu'il y avait quand même un bûcheron qui était avec lui. Et puis, ils utilisaient la hache, ce que vous utilisez autant couramment qu'auparavant. Et il y avait des différents chalets dans la montagne qui étaient là, qui est très important parce que, justement, lié à ces problèmes de locomotion, souvent, l'équipe forestière restait sur place toute la semaine pour travailler. Ce qui n'est plus le cas maintenant.
Ah, c'est complètement différent. Oui. Aujourd'hui, il y a une équipe de 7-8 personnes.
On est 8 employés au triage forestier.
Vous faites quoi comme travail? C'est quoi la semaine type d'un bûcheron?
Ah, il n'y a pas vraiment de semaine type. Disons qu'il y a des périodes types, un peu comme en agriculteur, on a des semaines où...
Plus agréable, sans pluie,
voilà, c'est temps, c'est pas vraiment la période agréable pour un forestier bûcheron. Mais on a des périodes de coupe, où là, pendant une semaine, des mois complets, ils vont couper. Donc tous les jours, ils sont sur la même coupe. Il y a des périodes où c'est un peu plus varié, où on fait du fauchage, l'entretien de chemin, la création de mobilier urbain un peu au centre forestier. Bon, c'est quand même un travail qui est assez varié.
Qu'est-ce qui dicte les coupes? Comment ça se passe? Il y a un planning ou alors c'est est-ce qu'il y a un inspecteur, je ne sais pas, au niveau cantonal qui dit qu'il faut faire tel travaux, je sais pas.
Oui, alors c'est qu'en tant que garde forestier, je ne suis pas seul homme à bord, disons. Je suis aussi mandaté par l'État du Valais. Et du coup, forcément, il y a un inspecteur pour l'arrondissement ici. Et au niveau du programme, 80% de nos exploitations, c'est en forêt de protection, donc pour l'entretien, pour rajeunir ces forêts. Et là, il y a une cartographie qui a été faite sur des priorités pour savoir quelle forêt il faut intervenir en premier. Et sinon, bah, c'est à moi de faire un peu un programme sur l'année, pour savoir par quoi on va commencer, disons.
Qu'est-ce qu'on entend par entretenir une forêt? Parce que maintenant, on entend plutôt qu'il faut laisser la forêt vivre sa vie.
Moi, je crois qu'il y a trop d'arbres. Moi, j'ai entendu qu'il y a trop d'arbres dans nos forêts. Enfin, on entend plein de choses. C'est le moment de rétablir la vérité.
Oui, c'est exactement. C'est l'occasion de rétablir la vérité. Alors, c'est vrai que déjà, dans un contexte cantonal, en Valais, on a quand même une forêt qui s'agrandit. Que ce soit au niveau de la surface et puis du nombre d'arbres et puis du volume sur pied, quoi. Les forêts vieillissent. Premier facteur, c'est forcément l'agriculture. Dans ces régions alpines où l'agriculture se fait de plus en plus compliquée, la forêt gagne du terrain. Et du coup, on a une surface forestière qui augmente d'année en année. Et puis au niveau du triage, on a quand même des forêts qui sont assez vieillissantes. Donc pour que ces forêts ne soient pas trop vieilles et s'effondrent à un certain moment, qu'elles maintiennent cette fonction de protection, on a besoin de les rajeunir. C'est-à-dire qu'on va couper des arbres qui sont vieux et qui sont malades pour faire de la place à d'autres petits arbres.
Et puis au bois noir?
Le bois noir, là, c'est un cas particulier, c'est une réserve forestière. Donc là, c'est vraiment une forêt qu'on laisse à elle-même pour maintenir cette fonction de biodiversité plutôt.
Le bois que vous prélevez, enfin que vous coupez, quel est le pourcentage entre ce qui est prélevé et laissé sur place?
Alors, on exploite annuellement 6000 m3 de bois. Sur les 6000 m3, on débarde un peu plus de 5000 m3 de bois. Et sur ces 5000 m3, la moitié, c'est du bois énergie qui va partir soit sous forme de bois de feu ou bien de copeaux pour la centrale ou d'autres centrales à l'extérieur. Et sinon, c'est tout du bois de charpente, de scierie ou autre.
Donc ça, c'est l'exploitation, la sylviculture et puis la forêt protectrice, c'est ça?
Exactement, ouais.
Faites aussi des travaux de génie.
Voilà, on en parle de génie forestier.
Je vois un génie. Hein,
oui, oui.
Dans la lampe. Non, c'est pas
typiquement ces temps, avec tous les glissements de terrain, les effondrements, il y a souvent des ouvrages qu'il faut réaliser pour maintenir des routes. Ça peut être des caissons forestiers. C'est des fois qu'on voit ces espèces de piles de bois sous une route. Ça la permet de la maintenir et puis d'éviter qu'elle s'effondre.
Et puis, une autre chose qu'ils ont réalisé cet été, il y a aussi des passerelles qui ont été arrachées. Donc, vous avez changé des passerelles.
Exactement, ouais. Bah, du reste, il y en avait... sur le chemin pédestre entre les Pras et le Stantir de Verossa, sur les chemins pédestres.
Ouais, qui était coupé pendant un certain temps d'ailleurs. Ouais. Donc vous recevez aussi des mandats
confédération.
Ou des communes. Parce que les chemins, l'entretien des chemins, c'est responsabilité
alors,
des communes.
Forcément, nos clients principaux, c'est déjà les communes et les bourgeoisies, hein, qui nous mandatent aussi pour des travaux autres. Sinon, c'est tout ce qui est des services industriels, que ce soit les lignes haute tension, lignes électriques, téléphoniques. Et après, on fait aussi des petits travaux pour les privés, que ce soit des tables, de la taille d'arbres. On est vraiment quand même un triage très forestier. On fait quand même assez peu de travaux de paysagisme, disons.
Donc, c'est une association, Florence, c'est une association intercommunale. Ça se passe comment enfin, c'est quoi comme organisation? Une SA où je pose une colle?
Alors, c'est une association de communes.
Ah bah voilà.
C'est une forme juridique assez particulière. Donc, en fait, on est vraiment considéré comme une collectivité à même titre qu'une commune.
Voilà.
Association de communes.
Voilà. Oui, 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 ouais, parce que le terme exact, c'est vrai que, en fait, on se voit au minimum 3 fois dans l'année pour prendre certaines décisions, faire le budget, les comptes et puis se tenir au courant de tout ce qui se passe. Donc, s'il y a quoi que ce soit dans l'intervalle qui se passe, le garde nous tient toujours au courant. Et puis sinon, c'est à ces moments-là qu'on prend certaines décisions pour l'orientation qu'on pourrait donner au triage et puis pour beaucoup d'autres choses. Donc le triage a énormément évolué ces dernières années. Donc maintenant, on est content de voir qu'il y a une belle équipe et puis que cette équipe a des beaux outils de travail à disposition.
C'est autofinancé? Excuse-moi, Fabien. C'est autofinancé?
Alors, actuellement, oui. Mais il faut dire aussi que les forêts de protection, en fait, on touche des subventions pour entretenir ces forêts de protection. Et pour les autres travaux, on fait quand même des travaux pour tiers qui ramènent quand même un peu d'argent et qui permettent au triage d'être rentable.
Il y a ce site internet, hein, il y a une liste des prix. On peut finalement commander des choses. Alors, on parlait avant l'interview, c'est la saison, le bois de chauffage, mais vous pouvez aussi fabriquer, tu l'as évoqué, hein, du mobilier, par exemple des tables, des bassins. Il y a tout un tas de choses que chacun peut venir vers vous et puis commander quelque chose de particulier qu'il a envie d'avoir.
Oui, puis ce qui est très intéressant avec nous, c'est que vu qu'on a quand même la matière bois de la manière la plus brute possible. Souvent, les gens peuvent venir avec juste une idée. Et puis après, nous, en fonction du bois qu'on a à disposition, on peut vraiment créer l'idée sur mesure, à façon. Quoi.
Donc, il y a l'aspect créatif.
Il y a l'aspect créatif qui est de plus en plus un peu en vogue et qui est, je trouve, très intéressante à travailler. Ouais.
On parlait de l'équipement aussi, je voulais revenir là-dessus. Hein, de la scie à deux mains et de la grande hache. Aujourd'hui, le métier s'est beaucoup transformé. Il y a quand même beaucoup d'aide. Alors, il y a la tronçonneuse, bien sûr, tout le monde connaît, mais on a tout un tas de choses pour faciliter, des machines et ce genre de choses qui rendent le travail peut-être moins pénible.
Oui, alors déjà, forcément, c'est que les haches, on en a encore, mais on ne les emploie quasiment plus. Maintenant, tous les travaux forestiers vraiment se font à la tronçonneuse, donc avec un moteur. Même au niveau de l'abattage, on a des autres aides qu'il n'y avait pas à l'époque, que ce soit des coins mécaniques, des coins hydrauliques. Maintenant, on est aussi équipé d'un tracteur forestier qu'on voit souvent passer dans la ville, ce gros machin tout jaune avec une grue. Ça, c'est aussi une aide pour le bûcheron qui change vraiment la façon de travailler.
Et puis, un spray orange pour faire un X sur les arbres.
Exactement, ça, c'est moi qui le fais, c'est pas les bûcherons.
Vous avez des apprentis?
Oui, et actuellement, on a deux apprentis. Ouais.
C'est facile de trouver, il y a beaucoup de volontaires, parce que le métier du bois, en général, ça attire. C'est très physique.
Alors, c'est souvent un métier qui attire beaucoup les jeunes, parce que forcément, voilà, c'est un peu le cliché du bûcheron, c'est que c'est quelque chose qui vend. Et le problème, c'est que souvent, les jeunes ne restent pas dans la profession. Après quelques hivers, ils se rendent compte qu'il y a peut-être mieux à faire ou bien que c'est trop pénible. Et souvent, ils partent. Et c'est un peu... Il y a ce problème-là dans tous les autres domaines, disons, mais on l'a peut-être encore plus en forêt. Ouais.
Qu'est-ce qui est vraiment pénible dans le travail de bûcheronnage? C'est quoi? C'est le physique? C'est... Alors, le soir, on est complètement claqué?
Alors, je pense que le physique, c'est dur, mais ce n'est pas ça qui va vraiment poser problème à la longue. Je pense qu'il va poser problème, c'est les conditions météorologiques, c'est le fait d'être dehors. Avec l'âge, même si la passion est là, le corps subit quand même les années, et c'est souvent ça qui va décider à un bûcheron de quitter la profession.
On voit régulièrement sur Eurosport des concours de bûcheronnage. Alors qu'est-ce qu'il y a de réel ou de sportif là-dedans?
Non, alors à la base, il y a quand même tout qui provient plus ou moins de la profession, hein, tout ce qui vont, toutes les activités, toutes les épreuves qui...
Ils sont complètement baraqués. Hein,
c'est des sportifs. Hein, on a pris le travail de bûcheron et on en a fait un sport, je trouve magnifique à regarder. Mais c'est vrai que y a pas tous les bûcherons professionnels, disons, qui pourraient arriver à ce niveau-là de sportivité.
Ouais, ils sont à la hache.
Eux, ils sont à la hache, exactement. Ils sont aussi à la tronçonneuse.
Mais en parlant d'être bien bâti, il faut quand même souligner que les machines, elles ont un certain poids. Si on essaye de soulever une tronçonneuse et puis de l'éloigner un petit peu de son corps simuler le mouvement qui doit être fait pour abattre un arbre, eh ben, il faut y aller. Hein. Puis toute la journée, c'est quand même un travail qui est bien physique.
Musculation à longueur de journée.
Exactement, ouais.
Alors demain, cette vente des sapins, à partir de 16h, on le rappelle, jusqu'à 18h, sur la place du Val-de-Marne, avec le vin chaud des bûcherons, des bûcherons, du triage forestier. Le vin chaud offert par Optiagone, ambiance Noël, Père Noël, et plein de beaux sapins à vendre. Et puis aussi, l'occasion de discuter avec les équipes du triage pour parler de ce beau métier, j'imagine.
Exactement, là, toute l'équipe sera présente, donc les 8 employés. Et puis c'est vrai que c'est souvent là un bon moment de convivialité.
Merci d'être venu nous rendre visite. On vous donne rendez-vous demain sur la place du Val-de-Marne. Bonne soirée.
Bienvenue à tout le monde, merci.
C'est bientôt Noël et c'est aussi l'occasion de faire preuve de générosité, de penser à celles et ceux qui en ont besoin. On va parler des Colis du Cœur. Les Colis du Cœur, c'est une association qui est née il y a quelques années, il y a 2 ans, bientôt à Saint-Maurice, qui sera présente lors de l'événement de la Société de Développement qui s'appelle Noël Ensemble, qui aura lieu les 20 et 21 décembre, donc c'est la semaine prochaine, sur la place du Val-de-Marne, de 18h à 21h. Attention, s'il pleut, c'est au Roxy que ça va se passer. L'association Les Colis du Cœur sera présente avec toute une animation. Pour parler de tout ça, le chanoine Maurice Cessou avec nous. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Fabien.
Alors, ces Colis du Cœur, ça date de 2021, mais finalement, c'est quelque chose qui est né un petit peu plus tôt. Cette idée, c'était en fait avec le Covid que tout est arrivé.
Oui, et nous avons vécu une période un peu spéciale avec l'avènement du Covid. et beaucoup qui ont perdu leur travail et beaucoup sont passés d'un statut de professionnel à un statut de sans-emploi. Donc, c'était un peu plus difficile pour les gens et beaucoup venaient à l'abbaye pour solliciter des aides. C'est dans cet ordre que le prieur et l'abbé ont demandé de pouvoir faire quelque chose et ils m'ont confié cette mission-là. Et ce que j'en ai fait aujourd'hui, c'est ça l'association des colis du cœur, un concept qui existait déjà ici à Saint-Maurice, hein, ouais. Qui se trouvait à la maison de la famille dans le temps. Et voilà. Nous l'avons presque remis en route pour passer de ce passé-là à un présent et qui s'avère un peu plus salutaire pour ceux qui sont en situation de précarité, évidemment. Et pas seulement à cause du COVID, mais aujourd'hui, tous ceux-là qui passent dans notre cité, qui ont besoin d'un coup de main, qui ont besoin de l'assistance sociale. Alors, nous sommes là pour les aider.
Vous avez un local, une maison hein, à Saint-Maurice.
Oui, oui. Au niveau de l'aumônerie du collège, on a mis à disposition un local et c'est bien écrit devant ce local, hein, colis du cœur. C'est bien identifiable où les gens nous font des dons, des vivres, des dons soit en argent, soit des choses qu'ils achètent à la copte et ils viennent nous les donner. Nous organiser aussi des collectes pour pouvoir avoir ces dons-là. Et puis les gens téléphonent après, on leur fait un colis bien en forme.
C'est ça le principe, hein, finalement, oui. C'est d'appeler à la générosité des gens qui ont... qui puisse donner, que vous puissiez ensuite redistribuer à n'importe qui en a besoin.
Oui, ce n'est pas que ceux qui donnent ont.
Ouais.
Tout le monde est dans une situation spéciale, mais on fait un effort de solidarité. Et puis cela remet en confiance la commune qui prend en charge ces personnes qui sont dans une situation de nécessité momentanée ou bien cela peut durer.
Cela durer. Mais,
la preuve est que depuis 2021, on a commencé, on ne s'est pas arrêté. Ce n'est pas que les demandes ont diminué, au contraire, ça s'augmente d'année en année. Ce n'est pas seulement dans notre cité, c'est aussi ailleurs, c'est dans les autres villes aussi. Les gens s'organisent pour faire quelque chose au moins.
On se pose pas la question, n'importe qui vient peut avoir de l'aide, on ne demande pas que ce soit des gens de Saint-Maurice ou... C'est pas une...
Bon, on a fini par exiger...
De voir un petit peu resserrer.
Que ce soit des gens du district de Saint-Maurice. Et puisque ailleurs aussi, les gens se sont organisés.
Mais ça existe donc, à Montais, ça existe à Martigny.
Mais pour certains, il arrive que c'est difficile pour eux dans leur région pour demander. Mais on n'en tient pas grand compte, mais... Voilà, ce qui est requis, c'est pour les gens du district de Saint-Maurice.
Alors, les personnes qui en auraient besoin, c'est vrai que c'est l'aumônerie du collège, c'est l'avenue d'Agone.
Oui.
7, c'est en face du restaurant Le Troubadour.
Oui.
Un avantage, si on peut dire, c'est que c'est un petit peu caché. Donc, ça permet une certaine discrétion aussi.
Oui.
On peut venir chercher quand on veut. Comment ça se passe pour les personnes qui auraient besoin d'une aide?
En fait, quand on a besoin d'une aide, il faut téléphoner. Il faut téléphoner et puis à un numéro 078 220 94 73. Quand on appelle ce numéro les lundis après-midi, on vous programme, soit si c'est urgent, on vous sert en même temps, sinon le vendredi qui suit, on vous attribue une heure à laquelle vous venez et à ce rendez-vous, et là, tout ce que vous voulez, si on l'a, on vous donne. Si on n'a pas, c'est qu'on n'a pas.
Voilà.
C'est ce que la commune a qu'elle donne et ce qu'elle n'a pas, elle ne peut pas donner.
Alors bien sûr, pour pouvoir donner, on a besoin de recevoir. Hein.
Oui.
On a besoin aussi de bénévoles. Vous, c'est l'occasion ici d'être à l'antenne, de faire un appel à des personnes qui voudraient faire des dons en nourriture, en argent.
Surtout, il faut d'abord remercier tous ceux qui font partie de ce comité-là et qui ont mis en place ce système-là. C'est vrai, il y a des bénévoles. Mais grâce à la présidente Sylvie Michaud, le vice-président Gilbert Cornus, et puis notre comptable actuel Pascal Dorsa, qui mettent en place tout le système des bénévoles autour de Monique Lavanchier et de Maddy Meuvely, ces deux dames-là qui s'occupent surtout des bénévoles. Nous en avons près d'une trentaine. À chaque fois, ils viennent à notre aide pour les collectes à la Migros, pour les collectes à la COP.
On peut vous voir parfois voilà, à la sortie des supermarchés. C'est peut-être l'occasion aussi aux gens de dire de pas forcément amener des pâtes ou du riz, parce que ça, il y en a assez. Hein.
Oui, mais on peut comme les fêtes approchent, on prend tous les dons.
Bien sûr.
Ce n'est plus seulement du vivre, mais il y a aussi le vêtir. Parce qu'il y a des habits.
Brosse à dents, dentifrice, des produits de soins.
Les produits de lessive, puisque ça coûte de plus en plus cher. C'est quelque chose... Mais on a quand même, il faut le remercier, la population d'Agone qui vient en aide à ces pauvres. Donc ça, c'est le premier bénévole que nous avons, c'est toute la cité de Saint-Maurice.
Alors il y aura la possibilité, je l'ai dit, le 20 et le 21, vous êtes présents. Qu'est-ce qu'il y aura ?
Et la société de développement nous confie l'animation de l'arbre de Noël. Cet arbre-là, que nous allons décorer de nos messages de paix, de nos messages d'amour, de nos messages d'espérance, surtout en ces heures où l'actualité est un peu plus sombre et que luisant, nous apporterons de la lumière, nous apporterons de la joie, nous apporterons du dynamisme, du mouvement. Dans ces deux soirées que la société nous offre autour d'un vin chaud, il y aura des messages que les gens vont accrocher à ces tables-là. Et s'ils veulent nous faire un don ou bien mieux nous connaître ou bien devenir bénévole dans cette association, c'est le moment de prendre contact aussi avec nous. Et presque tous les membres du comité seront là. Il y aura des bénévoles aussi qui seront là à disposition pour échanger. Et je pense que ce sera un moment de bonheur et de fête. Dans la continuité de ce que nous vivons avec les fêtes de fin d'année.
C'est ce qu'on espère. Sur cet arbre, il y a la possibilité alors, de mettre un message, vous l'avez dit, et puis de déposer un don. Alors, ça peut être, comme on l'a dit, des biens alimentaires, non alimentaires, ou bien aussi de faire un don en argent.
Ça, oui.
Il y aura un numéro de compte
oui.
qui pourrait être communiqué. Oui. Vous avez des actions déjà planifiées, sinon
nous avons déjà des actions planifiées. Normalement, nous faisons deux collectes par an, mais là, on a déjà épuisé nos deux collectes. Normalement, on devait encore faire une collecte, mais on a eu la chance, on a eu un coup de grâce d'une fondation, Serviteurs de l'Espérance, qui nous ont fait un don important. Et c'est le moment aussi de remercier cette fondation
Bien
qui
sûr.
Pense à nous. Et vous tous qui parlez des colis du cœur, à des gens que vous connaissez, à des gens qui peuvent nous aider, parce que si nous arrivons à donner un coup d'aide à ceux qui en ont besoin, c'est moins de tension, c'est moins de crispation dans notre cité. Notre cité sera une cité toujours plus joyeuse parce que, voilà, on met de l'humanité, on met de l'assistance, on n'est pas indifférent à ce que les autres vivent. Donc, c'est quand même un instant de bonheur que nous apportons en ces moments de fête pour ne pas être heureux tout seul. L'homme le plus heureux, c'est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre.
C'est presque le mot de la fin, hein, c'est une belle citation. On vous retrouve donc mercredi et jeudi sur la place du Val-de-Marne avec ce sapin qui sera décoré. J'en profite aussi peut-être pour parler de ce Noël ensemble rapidement parce qu'il y a tout un tas d'animations. Vous serez là et puis de la joie, il y en aura plein parce que mercredi, ça, c'est de 18h à 21h. Donc, il y a le temps de passer dire bonjour. On aura Claudia Premont. Donc, ça, c'est le chant, l'école de chant. Il y aura de la chanson le mercredi. Il y aura le chœur mixte qui sera là aussi. Il y aura Pierre-Alexandre Brissot. C'est aussi du chant le mercredi. Et puis, le jeudi, de nouveau Claudia Premont. Il y aura nos amis de la Gonoise, la fanfare municipale qui viendra égayer les âmes après la visite de Viola Merde qui arrive à 14h06 à Saint-Maurice, qui est le journée ce jeudi 21. Et puis, de nouveau, Claudia Premont sur place, les colis du cœur sont là, à la recherche, on l'a dit, de soutien, que ce soit financier, que ce soit des vivres, du non-alimentaire, pourquoi pas pour devenir bénévole aussi.
Bénévole aussi.
Donner un coup de main, ça coûte rien. Et puis le cœur mixte, et puis la gonoise. Merci Maurice pour ces explications.
Merci beaucoup à la radio de nous avoir donné cette opportunité-là je dirais de publicité pour le colis du cœur.
Et on se retrouve mercredi sur la place du Val-de-Marne.
Merci beaucoup.
Bonne soirée
chez vous.
Agone Radio.
une vente de sapins de Noël le 15 décembre, Noël ensemble le 20 et le 21 décembre. Des beaux événements qui ont lieu à l'extérieur au froid, mais l'hiver, c'est aussi une saison qui se prête aux soirées cocooning, un bon livre à la maison, sous une chaude et douce couverture, un grand verre de chocolat chaud. On vous laisse organiser le côté logistique. Par contre, on peut vous proposer quelques lectures avec Yasmina Cordonnier de la librairie Saint-Augustin. Bonsoir Yasmina.
Bonsoir Fabien.
Deux ouvrages au menu aujourd'hui, Le Grand Feu de Léonore Recondo, c'est aux éditions Grasset, et Ne réveille pas les enfants d'Ariane Chemin aux éditions du Sous-Sol. Pour le premier livre, Le Grand Feu, on va se rendre à Venise en 1699, on remonte le temps. On découvre Francesca qui est assise tous les dimanches aux offices qui se déroulent à la Pietà. Elle est à chaque fois transportée par la musique qui s'y joue.
Oui, la Pietà est une institution qui recueille les enfants abandonnés, mais uniquement les filles. Et elle est surtout réputée pour son enseignement de la musique. Francesca souhaite pour sa fille, Ilaria, un autre destin que le sien. Autre chose que simplement devenir soit épouse, soit religieuse.
Alors, Ilaria intègre à 3 mois l'institution. Elle apprend très jeune le violon auprès de ses aînés, puis d'un jeune maître qui compose, un certain Antonio Vivaldi.
Oui, elle va devenir sa copiste attitrée. Grâce à ce travail, elle apprend la construction des sonates, des musiques sacrées. Elle entre dans l'esprit du maître. Elle communie véritablement avec la musique. Elle a parfois l'impression, lorsqu'elle joue, que son être tout entier se consume. Elle imagine que sa musique s'envole, s'enfuit par le canal pour rejoindre la mer, et elle avec.
Car Ilaria a un rêve, c'est de découvrir le monde.
Oui, mais les règles de la Pietà sont strictes et les sorties sont rares. Une fois par an, à Noël, elle rejoint ses parents et ses deux sœurs. Cette journée est remplie d'attentes, mais l'attente de faire partie d'une famille. Mais ces journées sont aussi teintées d'amertume, car Ilaria, malgré l'amour que lui témoigne sa mère, peine à trouver sa place. Sa véritable famille, sa véritable sœur, elle l'a trouvée en la personne de Prudencia. Prudencia vient d'une riche famille vénitienne, elle habite un beau palazzo. Elle se rend à la Pietà pour des leçons de chant.
Et grâce à cette amitié, Ilaria, elle peut sortir, elle peut découvrir Venise, parce que les pensionnaires sont autorisés à donner des concerts à l'extérieur. Et c'est justement lors de l'une de ces sorties qu'elle va rencontrer Paolo, le frère de son ami.
Et nous assistons à la rencontre de deux êtres animés par une passion, par un désir de parcourir le monde. Mais aussi deux êtres sur lesquels repose beaucoup d'attentes. L'excellence dans la musique, au vu du sacrifice de sa mère pour Ilaria, et le désir de grandeur pour Venise, pour Paolo, dont l'enfance a été bercée par les récits de conquête de son père. Alors, Le Grand Feu est un roman plein d'ardeur, de passion, un roman d'émancipation, mais paradoxalement empreint de nostalgie, un peu à l'image de Venise, cette ville d'eau où les sons et les couleurs résonnent différemment.
C'est plein de poésie. On va parler du deuxième livre maintenant, « Ne réveille pas les enfants ». C'est un livre d'Ariane Chemin, je l'ai dit, qui est paru aux éditions du Sous-Sol. On cadre. Ariane Chemin, c'est une journaliste au journal Le Monde. Elle se penche sur un fait réel, une tragédie qui s'est déroulée à Montreux il n'y a pas si longtemps et qui a défrayé la chronique.
Le 24 mars 2022, au petit matin, deux policiers se rendent au domicile de la famille David pour une question administrative concernant la scolarisation de leurs deux enfants. À travers la porte, ils déclinent leur identité, mais comme personne ne vient ouvrir, ils décident de partir sans savoir qu'au même moment, toute la famille se jette du 7e étage. La mère, sa sœur jumelle, deux enfants et le père. Seul le fils survivra à la chute. Ariane Chemin se rend donc à Montreux, qu'elle décrit d'ailleurs admirablement. Elle fait une rencontre surprenante avec un personnage, comment on pourrait le qualifier, complexe. Je vous laisserai le découvrir lors de votre lecture. Mais les témoignages qu'elle collecte sont rares, car la famille vivait à l'écart, repliée sur elle-même.
Alors, on va sortir un peu de Montreux pour continuer l'enquête. On va se rendre du côté d'Alger.
Oui, on quitte les palmiers de Montreux pour ceux d'Alger, et pour cause. Lorsqu'elle a appris lorsqu'elle a pris connaissance de ce fait divers, un nom a attiré son attention. Feraoun, le nom de famille des jumelles. Najris et Nasrin sont les petites filles de l'écrivain Mouloud Feraoun, écrivain encore très populaire en Algérie, qui a publié aux éditions du Seuil. D'ailleurs, j'ai regardé un peu et effectivement, ses livres sont encore disponibles. Et il a directement écrit ses livres en français, alors qu'il est de langue arabe. Mouloud Feraoun est issu d'une famille très pauvre de Kabylie. Son père quitte ses montagnes pour trouver du travail afin qu'il puisse faire des études. Il sera d'ailleurs l'un des premiers à intégrer une école pour les Français et deviendra ami avec le romancier Emmanuel Robles. À la fin de son cursus, il est instituteur et directeur d'école.
On peut parler du caractère de cet homme, Mouloud Feraoun. C'est quelqu'un qui vit avec une exigence de savoir, une exigence de culture, des exigences qu'il a envers ses enfants. Et parmi ses enfants, justement, c'est là que les Athéniens s'atteignent. Il y a Ali, que la journaliste va rencontrer, et Mokran, qui est le père des jumelles de Montreux.
Exactement, et l'enquête avance en alternant les deux récits, ce qui permet de mettre en évidence ce que la journaliste nomme les coïncidences exagérées. Et c'est vrai qu'elles s'enchaînent.
Alors pour tenter de comprendre ce qui a mené à ce drame, on va remonter à la guerre d'Algérie.
Oui, durant cette période, les exécutions, les disparitions, les attentats et la torture rythment la vie quotidienne. Mouloud et sa famille déménagent très souvent. Et il devient de plus en plus taciturne. La peur règne. Il ne sait plus à qui faire confiance. L'OAS a infiltré à peu près tous les réseaux. Le scénario est quasi identique chez la famille David Feraoun, qui est, on le rappelle, la famille du drame de Montreux. Cette famille quitte précipitamment ses logements, brouille les pistes, laissant presque tout sur place, comme si elle devait fuir une menace imminente. Et pour elle aussi, plus le temps passe, plus elle vit en autarcie.
Et là, le drame jaillit des deux côtés.
Oui, le 15 mars 1962, donc 3 jours avant les accords d'Évian qui mettent fin à la guerre d'Algérie, 6 personnes, dont Mouloud Feraoun, sont réunies pour discuter des plans scolaires de la nouvelle Algérie. La porte s'ouvre, un commando de l'OAS débarque, il n'y aura aucun survivant. 60 ans et quelques jours plus tard, le drame de Montreux survient.
Et là, l'autrice Ariane Chemin va donner la parole à un psychiatre.
Qui ne peut pas vraiment se prononcer sur ce cas vu qu'il ne les a pas eus en consultation, mais il affirme d'après son expérience qu'il existe des paranoïas transgénérationnelles et que porter le nom de Feraoun n'est pas anodin. Il faut savoir que la paranoïa est un moteur très puissant, c'est une tache d'huile qui contamine tout l'entourage. Au terme de ce récit, aucune vérité n'éclate. Nous ne saurons très certainement jamais ce qui s'est réellement passé au sein de cette famille. Mais ce livre apporte un éclairage pour le moins troublant. Le mot de la fin revient à Mouloud Feraoun avec une phrase tirée de son journal. « Plane sur nous une indéfinissable malédiction. C'est peut-être cela la peur panique, sans objet précis, sans fondement. »
Merci. Yasmina, pour ces deux découvertes, alors à acquérir sans plus attendre auprès de la librairie Saint-Augustin, où il y aura une dédicace le 16 décembre de 15h à 17h, le jeudi 21 de 18h30 à 19h30, c'est bien ça?
Oui, alors le samedi 16 décembre, nous accueillons Ami Kervan Maï pour son livre « Le secret d'Atanor ». Alors c'est un roman qui s'adresse aux ados des 14 ans, mais aussi aux adultes, car le monde de la fantaisie a un large public. Et dans ce livre, nous suivons Maggie dans sa quête de vérité, humour, suspense, mystère sont au rendez-vous. Et le jeudi 21, de 18h30 à 19h30, une fois la librairie fermée, je vous donne rendez-vous pour la dernière rencontre de l'année de « Livres entre les lignes », où Jean-Paul Rouillet, à travers les livres de Luis Miguel Rocha, nous plongera dans les services de renseignement du Vatican.
Tout un programme. On peut comment s'inscrire si on est intéressé à participer pour Livre entre les lignes?
Alors, pour Livre entre les lignes, vous pouvez venir à 18h30. Vous pouvez aller sur le site de la librairie, regarder l'agenda. Vous pouvez nous envoyer un courriel en disant que vous voulez être tenu au courant et on vous enverra la newsletter.
C'est facile. Ben nous, on va se revoir début 2024 pour de nouvelles aventures
avec littéraires. Grand plaisir, parce qu'il y a une rentrée littéraire d'hiver en janvier et février.
Donc, beaucoup de découvertes.
Plein de nouveaux livres, mais j'essayerai quand même de présenter des livres de poche, parce que janvier est un mois parfois difficile.
Après les fêtes de Noël. Donc, beaucoup de lectures pour vous, pour pouvoir nous présenter ces livres.
Oui, mais c'est un réel plaisir, alors.
On se réjouit. Bonne soirée et puis bonne fête.
Merci, à vous aussi. Au revoir.
Un grand merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités du soir, Florence Rapa-Beauvais, Julien Crozet, Maurice Sessou et Yasmina Cordonnier. On fait un petit bisou particulier à Emmanuel qui n'est pas là avec nous, n'est pas derrière le micro puisqu'elle est au fond de son lit en train d'atrocement souffrir. Manu, bats-toi, ça va aller. Jeudredi, c'est terminé pour cette année 2023. Merci d'avoir été fidèles aux 29 rendez-vous, et oui, rendez-vous hebdomadaires que nous vous avons proposé depuis le 5 janvier dernier. On se retrouve avec plaisir et impatiemment au mois de janvier. D'ici là, on vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. Agone Radio reste présente, bien sûr, sur Internet et sur le DAB+, ainsi que sur les box Net+, et Swisscom Blue, et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et bien sûr sur notre site internet agoneradio.ch. Bonne suite de jeudredi soir et à bientôt sur Agone Radio.